Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Programme chargé aujourd'hui avec Supreme Commander 2, Street Fighter, le com des coms, Siren, Blood Curse, Little Big Planet, on accueillera Monsieur Fall comme chaque semaine, Football Manager 2009 et enfin Left 4 Dead. Donc, mais je vais commencer par accueillir mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Helio de Eurogamer.fr, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Quatre jeux aujourd'hui, il va falloir, on va essayer de respecter le timing, mais on va commencer par toi Clément qui voulait nous parler de, bah, du retour de, d'un de tes jeux cultes.
Oui, je suis assez prévisible, donc voilà, Supreme Commander qui est un jeu de stratégie temps réel. Extrêmement impressionnant, extrêmement intéressant, mais avec des défauts. Et là, on vient d'apprendre qu'effectivement, il y aurait une suite, donc Supreme Commander 2. Mais la surprise, c'est qu'en fait, l'éditeur ne serait pas un éditeur typique du monde PC. Là, c'était THQ sur le premier. Mm-hmm. Ça serait Square Enix.
Ah oui, ça scotche quand même.
Voilà, Square Enix qui est un éditeur console, Final Fantasy.
Donc ça va faire Final Supreme Fantasy Commander.
Ouais. Ça sera plus développé par le même studio alors.
Tout à fait. Non, ça sera toujours développé par GPG, Gas Powered Games. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est juste c'est probablement juste de l'argent en fait qui est injecté.
Et c'est un studio japonais qui injecte dans.
Voilà, c'est Square Enix, un éditeur.
Dans le STR, le plus américain qui
et
soit.
Et le plus PC qui soit. Mais je pense que c'est. Bah, c'est, ils veulent se diversifier, hein. Ils veulent plus être faibles.
Et c'est toujours ton game designer.
Tout à fait, Chris Taylor, l'ami. La question qu'on se pose. Est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce que l'impact positif, s'il rentre dans le développement, ça serait effectivement des
tous
unités...
les personnages vont avoir des habits ridicules.
Alors ça, c'est l'impact négatif. C'est-à-dire des jeunes et faibles, de 13 ans, voilà. Aux cheveux colorés, voilà. Ça serait l'aspect négatif. L'aspect positif, s'il rentre dans le développement, hein, je le rappelle, ce serait avoir des mecs commandeurs, enfin des unités avec un design quand même plus japonisant, qui peut être assez intéressant. Mais moi, je suppose que ce sera juste un partenariat financier et qu'on aura un Supreme Commander 2, on va dire. Classique.
D'accord. Patrick, Street Fighter, on a des dates, c'est des dates sur lesquelles hein.
Alors, Street Fighter 4, c'est quand même le jeu, enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, c'est le jeu de combat que les fans attendent impatiemment. Le quatrième opus,
avec
une série mythique,
King of Fighters aussi.
Énorme. Mais bon, Street Fighter 4, c'est quand même un titre très très attendu. Donc ça y est, les dates de sortie commencent à se dessiner. On sait que ça sera en février.
On parle
du 12 février pour le Japon et du 20 pour l'Europe.
Ah donc ce sera pas hyper décalé.
Ça serait voilà, donc ouais. il y aura pas à passer par la case import et tout ça. On aura une version
belle sortie mondiale,
très très vite.
Ouais.
Donc c'est un jeu très très attendu. Et puis une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, on sait aussi que Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, ouais. je l'ai dit d'une fois.
Ouais, pas mal, bravo.
Va arriver dans les semaines qui viennent. On parle de fin novembre.
Ouais, le 26, je crois.
2008, faut le souligner. Donc c'est une question de jour maintenant.
C'est rapide.
Va arriver. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le titre le laisse supposer. C'est une version en fait relookée du Street Fighter Street Fighter 2 Turbo, donc relooké, qui arrivera donc en téléchargement uniquement. Sur le
et donc
Xbox
cette
multijoueur,
cette version de Street Fighter 2 Turbo, c'est un peu la version ultime de
relooké
super du Street Fighter 2
du numéro 2, ouais.
Ouais, voilà, ouais. Donc
c'est la dernière évolution du 2 d'ailleurs, c'est le Super Turbo.
C'est celle qui reste un peu dans l'histoire et à laquelle on continue à jouer aujourd'hui.
Celle où Chun-Li balance des boules de feu.
Donc ça arrive normalement fin novembre sur Xbox Live Arcade et sur PlayStation Network. Donc voilà, une actu Street Fighter chargée dans les semaines qui viennent. Donc c'est du tout bon.
OK, le com des com de la semaine dernière. Alors pas mal de réactions. Déjà, bon, on va faire notre mea culpa. Hein. Donc, c'est qui déjà? On a eu plusieurs remarques, dont Xavier et Bandini qui nous ont dit.
C'est plus comme des coms, c'est on se bat la coulpe. Toutes
ouais,
les
on se bat la coulpe. Oui, dans Fallout 2, on ne sort pas d'un abri. Désolé.
Mais évidemment, évidemment.
Tu nous as pas corrigé. Autre petite erreur, Monsieur Fall qui s'est permis de refaire le test d'un jeu dont il avait déjà parlé. Mais vu qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre. Mais il a répondu dans les commentaires. Je vous invite à les lire. Une petite remarque donc sur Fallout 3 où beaucoup de nos lecteurs étaient d'accord avec toi Clément sur ton analyse et sur la déception vis-à-vis de Fallout 2 et des deux premiers Fallout, et Monsieur Mid qui dit: je ne comprends pas tout ce tapage à retardement, le vrai Fallout 3 est sorti il y a bien 7 ans et c'est juste qu'il s'appelait Arcanum.
Alors je suis d'accord avec lui, sauf que enfin, d'un point de vue d'expérience personnelle, moi, j'avais pas du tout aimé les combats, les combats dans Arcanum.
Le monde était très très impressionnant.
Mais le monde était très impressionnant. Les dialogues étaient géniaux aussi. C'était un Fallout effectivement dans le reste du jeu, mais les combats, j'étais pas fan du tout. Voilà.
Ouais, mais très très impressionnant. Mais moi, je sais que j'ai pas été très loin. J'avais quand même joué quelques heures. Et juste pour revenir et pour pas dire que du mal de Monsieur Fall qui s'est trompé la semaine dernière, une remarque de Endo, un truc auquel je pense souvent et je ne fais jamais. Un grand merci à Monsieur Fall dont les conseils d'achat sur ce podcast puis sur le site TrickTrack me guident dans une nouvelle passion qui prend de plus en plus de temps dans mes temps de loisirs, le jeu de société. Voilà, donc Monsieur.
Il y a plus de remarques sur la terminologie jeux vidéo, ça va?
On s'est calmé. Peut-être qu'on a fait une émission pas mal. Non, je crois qu'on a un peu dérapé la semaine dernière. Vous y avez peur, hein? Trembler. Siren Blood Curse. Alors, c'est vrai, juste un petit détail, l'actualité est chargée, donc on sait séparer le travail.
Exactement.
Donc, on va parler de 4 jeux, mais pour 3 d'entre eux, c'est un testeur unique. Donc, Siren Blood Curse, c'est toi qui commence, Patrick.
Et oui, je vous avais dit, moi, j'avais été un petit peu déçu de Dead Space pour son côté flip un peu décevante. J'avais pas eu le grand frisson avec Dead Space. Donc là, j'attends d'avoir un jeu qui va me redonner un petit peu le frisson. Et donc, Sirène qui arrive. Donc Sirène, qu'est-ce que c'est? C'est le premier opus sur PlayStation 2 d'une série qui a eu déjà 2 déclinaisons sur PlayStation 2. Ça s'appelait Forbidden Sirène à l'époque.
Ouais. Donc ça, c'est sur PlayStation 3.
Et là, on est sur PlayStation 3.
Oui, tu as dit PlayStation 2.
Ah, pardon. Non. Sirène, c'est sur PlayStation 3. Donc c'est le premier opus sur la... Sur la console.
Alors
next-gen,
je me souviens quand même du premier où il y avait une ambiance, où il y avait un design des monstres qui était pas mal et qui était purement injouable.
Et ben voilà, écoute, c'est bien le problème, c'est que moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Alors là justement, j'ai eu des petites sueurs froides quand même dans le jeu, c'est-à-dire qu'on retrouve comme dans les 2 premiers, c'est vraiment le point fort du jeu, c'est une ambiance vraiment pesante,
asiatique dans
exactement.
Dans la peur,
ouais. Et avec ce procédé qu'on voit beaucoup aujourd'hui au cinéma, c'est le fait d'avoir des personnages occidentaux plongés dans une ambiance de film d'horreur asiatique, en fait.
C'est-à-dire
ce qu'on
appelle
souvent
film d'horreur asiatique, c'est avec des petites filles aux cheveux noirs qui pendent devant la figure,
c'est ça.
Ouais. En caricaturant, mais c'est un peu ça. Quoi.
Et donc le jeu
un
fait
comme
très fort,
sœurs au cinéma.
On rappelle en 2 mots, donc contrairement aux apparences, c'est pas vraiment un survival horror. Moi, je pense que ça ressemble plus à un jeu d'infiltration en termes de gameplay. L'idée, c'est que l'histoire est découpée en une douzaine de chapitres et dans chacun, on incarne un personnage différent. L'une des caractéristiques du jeu, c'est qu'on peut voir par le biais du regard des zombies, en fait, qui
ça,
sont.
Ça, c'était déjà, donc c'est un des grands principes de la série, en fait.
Exactement, hein. On peut avoir une vision.
C'est le sighting, le. Quelque chose, sighting.
Ouais,
je sais
le
plus.
Sighting, ouais. Ouais, en tout cas.
Un truc comme ça.
Bon, bref, on
va,
peut voir.
On va encore nous plomber pour nos approximations.
On peut voir l'action par le. Voilà, le point de vue des zombies, donc ça, c'est plutôt rigolo. Et donc, une super ambiance. Maintenant, le problème, c'est que, comme tu disais, c'est très fidèle aux deux premiers jeux. D'ailleurs, c'est un remake
c'est
du premier. C'est, voilà, c'est ouais. un remake du premier.
Ah, c'est un vrai remake.
On retrouve le même scénario
vrai, ouais.
du premier. Et on retrouve la jouabilité très, très raide.
C'est le qu'on puisse dire.
Et le côté très scripté du jeu, qui est un petit peu dommage, parce qu'on a vraiment une super ambiance, mais c'est, à mon avis, très plombé par...
Mais tu le conseilles alors ou pas?
Il faut être fan du genre. Moi, je dirais que l'intérêt, c'est qu'il est vendu pas très cher. Il est proposé à 30 euros.
Ouais, ce qui était, oui, c'est
qui
vrai,
est plutôt
c'est
honnête.
Raisonnable.
En fait, il avait été proposé cet été en téléchargement par épisode sur le PSN. Et là, donc, Sony propose une version compilée sur un Blu-ray avec un making-of en plus. Donc, 30 euros, c'est pas une somme excessive. Et je pense que pour celui qui n'a pas fait le premier jeu à l'époque sur PS2, ça peut être l'occasion de découvrir le topo, mais il faut bien être prévenu du gameplay, c'est-à-dire que c'est un survival horror.
J'avais trouvé très 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 frustrant.
Et c'est ça le problème, c'est qu'on est vraiment dans le jeu d'infiltration, mais très scripté, qui pardonne pas une erreur. Il faut vraiment suivre la direction que propose le jeu. Il faut jouer le jeu, voilà. Et ça peut être frustrant pour celui qui s'attend à un survival horror plus traditionnel.
Donc vraiment
très bonne ambiance,
vraiment pour les addicts,
bien flippant, mais voilà, il y a des trucs un petit peu dommages. Donc voilà, ça peut tenter le coup pour découvrir
Siren,
l'univers.
30 euros.
Moi, j'attends quand même un vrai nouveau Siren développé vraiment pour la next-gen, qui ne soit pas un remake du premier.
Et
qui
fasse un peu gameplay.
Et voilà, qui fasse un peu évoluer le gameplay, parce qu'il y a des super idées dans ce jeu. Bah, le fait de voir l'action, en fait, dans une fenêtre, par le biais des ennemis, c'est super flippant. Il y a vraiment des moments très flippants dans le jeu. Mais ultra scripté, donc
voilà.
Donc voilà. Affaire à suivre, j'espère que le prochain remettra les.
Blood Curse. Planet, on en parle enfin pour de vrai, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en cause de celui-là. Donc il vient d'arriver sur PlayStation 3 en Blu-ray, 70 euros. C'est d'ailleurs un des problèmes. La petite chanson, bah, elle reste dans la tête. C'est un peu comme toutes les chansons de la bande originale. C'est un des points aussi, mais on va peut-être en parler de Little Big Planet. Et voilà. Donc là, je vais en avoir dans la tête pour tout l'après-midi. C'est parti. Little Big Planet, t'en as pensé quoi, Clément?
Du bien et du pas bien, mais je pense que moi, en fait, j'attendais un jeu de plateforme et j'étais déçu. Alors, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, loin de là. C'est juste que ce n'est pas un jeu de plateforme.
C'est quand même un jeu de plateforme. Enfin, c'est quand même de la 2D.
C'est de la 2D. C'est plus de l'exploration.
J'ai lu quelque part quelqu'un parlait de 2,75D.
Wow.
Et ça, moi, j'étais.
Il y a plein de théories. Ouais,
je ne veux même pas savoir où tu l'as vu. Mais effectivement, pour moi, c'est pas un jeu de plateforme dans la lignée des Mario.
Je pense que ce qui le différencie des jeux de plateforme traditionnels, c'est que c'est à mon point de vue, c'est la physique est au cœur du jeu. Plus que sur un jeu de plateforme classique.
La physique est très particulière.
Pour moi, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est la physique.
Moi qui suis, comme toi et comme vous autour de cette table, un vieux joueur qui a été éduqué à la plateforme carrée, précise, où quand on fait un saut, il est millimétré.
Oui.
Là, c'est pas du tout le cas. Et moi, je m'attendais effectivement à un jeu de plateforme. Alors, l'univers est trop mignon, il est adorable. C'est vraiment un univers fantastique d'un point de vue design, ça c'est clair. Moi, je m'attendais à un jeu de plateforme et j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Je suis pas du tout créatif. Ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que pour moi, la campagne solo, enfin,
les niveaux,
effectivement, sont des niveaux. C'est une démo en fait de ce qui est possible de faire. C'est pas vraiment, ça dure pas très longtemps, voilà. Donc c'est plus une démo de ce qui est possible de faire comme création de niveau après, puisque tout ce qu'on fait, on ne fait que récupérer des objets qui permettront de créer des niveaux. Alors moi j'ai vraiment apprécié effectivement jouer dedans. être dedans, mais et puis après jouer effectivement, ça c'est le gros point fort du titre, à des univers créés par d'autres utilisateurs téléchargeables sur le net. Mais j'étais un peu frustré et je trouve qu'effectivement pour un jeu, alors je m'attirais les foudres de certains auditeurs, mais je trouve que c'est un jeu qui n'est pas fini, dans le sens où vendre 70 euros, je trouve ça un peu cher.
Tu es en train de nous résumer à peu près les 5 minutes qui vont suivre.
Ouais, mais c'est-à-dire que, en gros, c'est un très joli créateur de niveau. Il faut rentrer dedans, il faut accepter effectivement de télécharger d'autres trucs. Moi, je m'attendais à une aventure solo plus longue à de la plateforme, et ce n'est pas de la plateforme. Ça n'empêche que c'est un jeu marquant, c'est un jeu effectivement étape dans le jeu vidéo communautaire. C'est un jeu intéressant, c'est un jeu qu'il faut conseiller, c'est un jeu en tout cas qu'il faut essayer.
Mais on va continuer à en parler.
Moi, j'étais déçu par rapport à mes attentes.
Patrick, voilà. Première impression.
Pareil, quand je l'ai pris en main, j'avais un petit peu des a priori sur le jeu. Plateforme, machin, tout ça. On a tous nos classiques dans le jeu de plateforme. Et moi, j'ai complètement accroché en fait au gameplay, contrairement à toi, Clément, qui visiblement t'es pas satisfait du côté plateforme.
C'était plus par rapport à mes attentes en fait.
Par rapport à tes attentes. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était c'est vrai qu'il y a un petit côté imprécis. Il y a un petit flottement sur les mouvements. C'est pas d'une précision au pixel près comme on a pu le connaître.
Mais je trouve justement que sur cette imprécision, c'est une imprécision physique presque.
C'est-à-dire que les
objets
physique,
qui sont présents dans le niveau ont leur physique. Donc du coup, quand on saute machin, on arrive là où la physique nous amène.
Selon la matière de l'objet qu'on va pousser, le poids n'est pas le même. On va pas le bouger aussi vite. Il y a toute cette dimension dans le jeu qui est très très bien développée.
Il y a quand même aussi l'aspect disons créatif mineur, parce que c'est vrai que le gros truc créatif de Little Big Planet, c'est créer les niveaux, créer des nouveaux mondes, des trucs comme
jeu,
ça. Mais bon, il y a quand même le design de son sac Boy.
Ça c'est fantastique.
Moi je craignais vraiment d'avoir qu'un éditeur de jeu de plateforme, et moi j'ai trouvé un vrai jeu de plateforme derrière qui est plutôt sympa, genre multijoueur, ce qui est plutôt rare dans le genre.
La caméra était chiée, ça marchait plutôt bien à 3 ou 4. Moi j'ai trouvé la caméra vraiment.
J'ai essayé à deux, ça marchait bien.
Mais bon,
à 4, j'ai pas essayé.
C'est vrai que il y a un vrai plaisir de la découverte des niveaux.
Le game design est pas mal dans les niveaux qui ont été faits pour le jeu, une vingtaine de niveaux, je crois. Et puis l'ambiance graphique est hallucinante, ça reste beau même quand on zoome sur un détail du décor, ça reste super beau, super bien texturé. La musique est hallucinante. Alors, je sais pas si c'est une bande originale de prévu, mais je trouve qu'elle est il y a une super bande son.
Je pense que ça arrivera de toute façon, mais c'est vrai que la bande son.
Je suis assez fan de Michel Gondry, de ses clips, de ses films.
J'ai vraiment retrouvé
ce côté bricole, et je trouve ça charmant, quoi. Je trouve que c'est vraiment réussi. C'est la première fois que dans un jeu vidéo, je retrouve cette sensation.
Ouais, l'univers est super attachant.
C'est vrai que la première fois où je l'ai mis en route, j'avais d'abord été, dans les mois qui viennent de s'écouler, j'avais d'abord été très très emballé, puis après, je lisais des choses, l'histoire du prix qui est quand même, si on a un a priori, même si finalement c'est un bon jeu, 70 euros, c'est quand même très cher. Mais donc j'avais cette espèce d'a priori négatif, un peu suspicieux, et j'avoue que j'ai été j'ai plongé dedans. J'ai surtout, ce que j'ai fait 3, 4, 5 niveaux déjà préparés, et puis après je suis parti sur d'autres planètes.
Je pense que c'est un jeu.
Et là, c'est vrai qu'on n'est plus dans le jeu de plateforme parce qu'on est dans la découverte d'univers. Voilà, on est dans la découverte d'univers. On se balade. Je sais pas si vous avez fait ce petit truc, mais je crois que c'est un niveau démo. Je suis même pas sûr que ce soit fait par un utilisateur. Où en fait, on monte dans une sorte de petite char voiture qui est en fait un séquenceur musical et qui passe à côté d'un mur où il y a des enceintes et en fait la voiture les active au fur et à mesure. Et le mec a fait un séquenceur musical avec une petite musique qui passe. Enfin, on se rend compte de l'ouverture totale, quasi totale.
C'est marrant, parce que c'est un peu un YouTube de l'univers créatif du jeu vidéo. Donc ça, c'est super intéressant.
Et puis, je pense qu'il faut pas se fier à son côté jeu un peu old school dans la conception. C'est un jeu qui exploite pas mal des capacités de la PS3. Moi, j'ai vu la mienne ramer quand même par rapport à la physique. Quand j'avais pas mal d'éléments en même temps qui se mettaient en route, j'avais fait ébouler.
Je sais pas si c'est un point positif de dire que la PS3 rame.
Mais c'est un jeu qui, en termes de physique, est assez impressionnant.
C'est
un jeu de plateforme qui utilise la physique.
Après, je sais pas quel niveau. C'est vrai qu'il y a tellement de niveaux créés par les utilisateurs qu'il y a peu de probabilité qu'on ait fait les mêmes. Je crois qu'on a fait Batman tous les deux.
Qui est très bien.
Après, moi, j'ai fait un niveau très très impressionnant. qui était un remake d'Aiko, donc avec une espèce de petite statue à se trimballer tout le niveau qui représente la petite fille dans Aiko.
Il y a
un tout petit niveau qui est très rigolo à faire, Mirror's Edge, dont on va parler ici sans doute la semaine prochaine.
Ce qui est bien, c'est le
niveau
système
Metal Gear Solid, il y en a plein d'autres. Enfin,
le système de notation, c'est-à-dire qu'on accède au niveau fait par d'autres joueurs et on peut les noter de façon très simple. C'est un niveau qui est plutôt difficile, plutôt
drôle,
rapide. Ouais. Et c'est génial. C'est vrai qu'on sent que l'interface était très travaillée pour que ce soit très facile d'accès. C'est vraiment un plaisir de
et c'est vrai que moi je pensais y jouer une petite session de 2 heures puis rejouer le lendemain. Finalement j'ai fini à 3h du matin en train de me dire bon allez juste un dernier.
Ça c'est les bons jeux en général
parce que c'est vrai que le temps de chargement ça se charge super vite, on n'attend pas trop, enfin c'est très impressionnant à ce niveau là
Moi, j'allais dire qu'il faut voir sur la durée. En fait, effectivement, la découverte est toujours super agréable. La découverte de nouveaux mondes est super agréable. Est-ce que c'est un jeu que, personnellement, je répète, c'est vraiment une question vraiment personnelle pour le coup. Est-ce que je le ressortirai d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Je sais pas.
Alors, ma question, c'est, je trouve qu'il y a énormément de créations très impressionnantes actuellement en ligne. Est-ce que c'est toutes des créations de joueurs ou est-ce qu'il y a Media Molecule derrière qui fait des petits niveaux
Parce que
je trouve que la qualité de certains niveaux, notamment Ico, c'est assez
bluffant.
Visiblement, si c'est un joueur qui l'a fait. Je suis,
concevoir un niveau prend pas mal de temps. Un bon niveau intéressant, moi, je m'y suis.
Mais en même temps,
ce qui est
un peu encourageant, c'est l'exemple Trackmania. Où on s'est retrouvé avec des niveaux pratiquement d'architecte. Enfin, c'était assez impressionnant à ce niveau-là. Little Big Planet, 70€, malheureusement, sur PS3. On conseille.
Un jeu à essayer, en tout cas.
Eh bien, on accueille, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net pour sa chronique jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Arwan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dominion, un jeu signé Donald Vaccarino. Alors, quand on achète une boîte de Dominion, on a l'impression qu'on a acheté un jeu de société standard. La boîte est assez grosse. On pense que quand on l'ouvre, on va trouver à l'intérieur un plateau, des cubes en bois, des figurines, des dés, etc. Sauf que non. Quand on ouvre une boîte de Dominion, il y a à l'intérieur exclusivement des cartes. Alors ça surprend, un jeu de cartes dans une boîte aussi grosse, mais il y a quand même 500 cartes à l'intérieur. De quoi s'amuser un bon moment. Alors je vous explique rapidement l'intérêt de Dominion, car Donald Vaccarino nous a concocté une mécanique assez particulière, très très peu utilisée jusque-là, qui donne à Dominion un goût de revenez-y, un goût absolument incroyable. Croyez-moi, ça risque de faire un succès cette année. Alors, Dominion est basé sur ce qu'on appelle le deck building, c'est-à-dire que vous allez construire votre main au fur et à mesure de la partie. Les gens qui ont pratiqué Magic, l'Assemblée par exemple, savent ce que c'est que construire un jeu, sauf que là, vous ne le construisez pas avant de jouer contre votre adversaire, vous le construisez pendant que vous jouez. Donc le truc, c'est que chaque joueur va avoir la même main au départ, composée de cartes argent et de quelques points de victoire, et vous allez avoir des cartes aux actions diverses et variées, posées au milieu de la table, visibles de tous, disponibles pour tous. Et le truc, c'est qu'avec votre argent, vous allez devoir acheter ces cartes-là à actions spéciales, que vous allez pouvoir jouer à votre tour, pour pouvoir enchaîner des combinaisons et vous remplir la main et acheter de plus en plus de points de victoire, car forcément, et comme souvent, l'objectif est d'avoir le maximum de points de victoire à la fin de la partie. Alors mon cher Arwan, ce que je peux vous dire sur Dominion, c'est qu'à mon avis, il risque de faire un carton cette année auprès des joueurs un peu passionnés, chevronnés, qui aiment manipuler des cartes. Il a un petit défaut évidemment, c'est qu'on a l'impression souvent de jouer tout seul dans son coin, bien qu'il y ait des cartes interactives que l'on peut rajouter au fur et à mesure que l'on joue. Je suis persuadé qu'il risque d'y avoir des tas d'extensions pour renforcer ce côté « j'embête mes camarades », ce qui, vous me connaissez bien mon cher Arwan, devrait encore plus me plaire. Voilà, c'était Dominion, un jeu de Donald Vaccarino, sorti chez Philosophia là tout juste maintenant en français, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties à peu près de 45 minutes, un jeu qui coûte dans les 40-45€. À la semaine prochaine mon cher Arwan.
Ah oui, le côté Magic, l'Assemblée, vous y avez joué vous à Magic?
Pas du tout.
Ah, moi, ça a été une grande période, je sais pas, j'essaierai peut-être Dominion. Merci Monsieur Fall de TrickTrack.net. Football Manager 2009. Bon, bah, je suis un peu tout seul sur ce coup-là.
Mais non.
On est avec toi, Erwan. Bon, bon,
est-ce que vous avez déjà installé un Football Manager?
Oui, j'en ai installé un et je l'ai vite désinstallé.
Pareil, ouais, j'avais essayé, c'est, je suis pas rentré dans le truc.
Ah, d'accord.
C'est que je suis assez foot, mais effectivement, à l'époque, je crois que c'était le 2006, c'était compliqué.
Bah, en revanche, je connais
2006,
pas mal de...
Il y avait déjà le truc avec les points, la vue d'ensemble du match, avec les points qui bougent sur le petit rectangle vert.
Oui.
Ouais, t'es pas allé jusque là, d'accord. Football Manager, donc le titre de gestion d'équipe de football qui s'appelait auparavant Championship Manager, mais suite à un rachat par Sega et Eidos qui se barre, l'entraîneur, on oublie, il existe encore, mais Sports Interactive, qui est le développeur de Football Manager, reste et donc continue à faire le meilleur jeu de manager de football. Les nouveautés, alors bon, non, je vais pas d'abord parler de qu'est-ce que c'est un jeu de manager de football. Vous ne savez pas. Non, en fait, on prend le contrôle d'une équipe et donc on gère à peu près tout, sauf ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas les joueurs. Et en fait, le résultat, c'est que pendant les matchs, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du fait d'être spectateur de foot devant sa télé. C'est-à-dire que, oui, c'est pas réaliste, même si, alors, cette année, pour la première fois, il y a un moteur 3D, un mini moteur 3D qui n'a rien à voir avec les FIFA et PES, mais on ne contrôle pas les joueurs. Ce qui fait qu'on
tu donnes des ordres quand même, non? Tu donnes des directives.
En tant qu'entraîneur, on a déterminé la tactique, on choisit les remplacements et quand est-ce qu'on les fait, mais c'est à peu près tout.
Ouais.
On peut changer le niveau, est-ce que vous voulez être offensif ou être plus défensif, mais c'est.
C'est une petite partie du jeu, ça, ou c'est une grosse partie du jeu,
c'est une bonne partie du jeu quand D'accord. même et en fait c'est mais pendant les matchs c'est assez délirant parce que c'est là où
en temps réel les matchs on voit les temps forts
c'est-à-dire un match ça dure 4-5 minutes on voit les temps forts et on se retrouve comme un spectateur devant sa télé vraiment à lever les bras comme un con tout seul devant son ordinateur parce que Lorient a marqué un but contre Nantes c'est assez délirant. L'autre aspect donc au-delà de ces matchs. Donc oui, il y a juste c'est pour
il y,
la
y a les transferts, il y a
voilà, et il y a les transferts, il y a toute l'économie du club, il y a aller chercher gérer l'entraînement aussi. Moi, j'avoue que c'est un des points que je ne manipule pas trop parce que c'est là on va dans les détails vraiment.
Moi j'adore les jeux de gestion à la capitalisme, etc. Est-ce que il y a une côté gestion de club financier qui est poussé là-dedans ou...
C'est l'aspect de Football Manager, c'est un espèce de réalisme exacerbé, c'est-à-dire qu'il y a tout.
J'ai cru comprendre que normalement les relations avec la presse étaient simulées aussi de façon plus
appuyée cette année. Là, c'est une des nouveautés, c'est qu'il y a toute une partie conférence de presse.
Tu organises des conférences, tout ça.
C'est les conférences d'avant-match, d'après-match, etc. où on peut envoyer chez les journalistes.
C'est pas bien.
Tu fais comme Domenech, tu dis oui, je crois en l'équipe de France, elle se crée en ce moment.
Non, mais c'était assez rigolo parce qu'à un moment, un journaliste m'a posé une question sur un de mes joueurs qui était censé déprimer. Et moi j'ai mis 100 commentaires et puis la question suivante, vous n'avez pas répondu à ma question précédente, est-ce que vous cherchez? Et il y a un espèce de réalisme comme ça à tous les niveaux qui est absolument délirant et surtout le must du must de Football Manager, de celui-là et des précédents, c'est la base de données des joueurs. 350 000 joueurs dans le monde qui sont référencés, leurs caractéristiques, leur courbe de progression, là où ils en sont, leur carrière, etc.
Mais quand on joue, on doit jouer de manière aussi longue et approfondie dans chaque département de jeu, ou alors on peut survoler et donner, je sais pas, à l'intelligence artificielle le moyen de gérer ça et ça, et nous on se concentre
là-dessus. Moi par exemple, je donne à mon assistant entraîneur le soin de s'occuper des entraînements je sais pas, le fitness, le machin, j'y comprends pas grand chose. Par contre
les transferts, on est obligé de les
on peut déléguer, mais alors déléguer la partie transfert,
est-ce qu'il y a un but dans le jeu
à gagner?
Est-ce qu'il y a une finalité, je veux dire,
le
meilleur club,
la Ligue des Champions,
la Ligue
camarade,
des Champions,
la Ligue des Champions. Okay. Bon, alors moi je commence avec Lorient, donc c'est vrai.
Tu commences avec des clubs.
Non, on peut commencer avec Barcelone si on
d'accord.
veut. C'est
mais... marrant, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il y a quelques années aussi, tu me disais que en fait toi à la base t'étais pas fan de foot.
Ah non, mais c'est ce que je raconte, c'est que j'ai même pas vu la coupe de la finale de 98.
Voilà, mais en fait tu connaissais les joueurs, tu pouvais parler de foot avec quelqu'un qui était passionné.
Avec le service sport à Libé, je me suis suis mis à parler de foot et de joueurs dont je connaissais même pas la tête, parce que je savais comment ils jouaient, je savais s'ils étaient bons dans tel domaine de jeu, etc. Je connaissais pas leur tête. J'ai même découvert qu'il y en a qui étaient blancs alors que je pensais qu'ils étaient noirs, et l'inverse. Et encore, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, il y a eu un match, il y a eu Gaël Clichy, que j'avais recruté dans ma partie en 2004, et je ne connaissais absolument pas sa tête. J'ai découvert à la télé il y a quelques semaines.
Ouais.
C'est très impressionnant.
Mais en tout cas, c'est aussi très prenant comme. C'est comme un MMO en termes
de. C'est chronophage à un point.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une version online qui arrive l'année prochaine.
En fait, qui est déjà sortie,
live.
Mais pas en France.
En Angleterre,
Football Manager Live.
Il y a déjà un nom de bêta. Ouais.
Et là, ça va être assez impressionnant. Je ne sais pas si je vais mettre le petit doigt dedans parce que ça me fait un petit peu.
Tu vas sombrer après.
Enfin bon, voilà, Football Manager 2009, franchement, bon, moi j'en essaye un tous les 3 ans parce qu'à chaque fois ça me fout 2 ou 3 semaines ou un mois en l'air. Mais celui-là.
Donc c'est du PC exclu et PSP exclu.
Non,
je crois,
PC Mac. PC,
et PSP.
Non, pas Mac, je ne sais plus. Et PSP, oui. Ils ont abandonné la version Xbox 360 de l'année dernière. Ah bah c'est subtil ça. Left 4
Ami
Dead.
De la poésie.
Left 4 Dead. Donc le dernier titre de Valve, le dernier hit, le dernier blockbuster de Valve.
Pour moi, c'est la meilleure surprise de cette fin d'année. Voilà.
Voilà.
C'est effectivement, on nous reprochait de pas en avoir parlé avant, mais c'était pour garder l'effet de surprise. Non, Left 4 Dead, donc c'est un jeu de Valve, c'est-à-dire Valve qui n'est pas inconnu dans le milieu du jeu vidéo PC et du FPS.
C'est un doux euphémisme.
Voilà, Counter-Strike, Team Fortress 2, quelques-uns, voilà, des jeux qui font le bonheur des joueurs PC entre autres. Left 4 Dead, donc c'est Left 4 Dead, voilà, donc on prend Left 4 Dead. C'est un jeu, effectivement, donc c'est pas un jeu d'horreur,
Enfin, il y a des zombies, quoi.
Il y a des zombies, c'est un jeu d'action frénétique, FPS, dans lequel chaque niveau, on doit, en coopération avec jusqu'à 3 joueurs amis,
une équipe de 4 joueurs.
Une équipe de 4 joueurs, voilà. On doit passer d'un point de sécurité à un autre point de sécurité en traversant la rue ou l'objectif pour s'échapper enfin de ce monde rempli de zombies. Alors ça paraît effectivement le pitch comme ça paraît excessivement simple et un peu bêta.
Ouais, ça fait un peu les gens qui se sont pas encombrés avec un scénario un peu trop envahissant.
Mais au-delà de ça, c'est le premier jeu où le mode coopératif est aussi bien fait et aussi mis en avant. C'est-à-dire que même quand on prend un Team Fortress, par exemple, où le coopératif est mis en avant, là, le but, c'est vraiment de la survie. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à 3, 4 zombies, on est face parfois à des hordes de centaines, de milliers de zombies. Et donc, le but, c'est vraiment une coopération. Quand on shoot un ennemi ou quand on va aider un ami, c'est pas pour lui faire plaisir à lui.
Et on a des objectifs, j'imagine, c'est ça.
Bah, c'est arrivé à la fin en fait.
Ouais,
c'est
traverser un niveau.
Arriver vivant à la fin. Alors ouais. L'avantage de ça, c'est effectivement comme c'est développé par Valve. Et sur Steam, l'intégration avec ses amis Steam, l'intégration avec les joueurs est super bien faite.
Steam,
la communauté est fantastique.
Ouais.
C'est que quand on joue, même avec des inconnus, très vite. Même qu'on connaît pas ou qu'on n'aime pas forcément, très vite on est vraiment soudé.
Ouais.
C'est-à-dire que par exemple, il y a les zombies classiques, hein, les zombies un peu bêta qui arrivent vers soi assez lentement, enfin globalement, et on va dire les super zombies, ils sont 5, 6, il y en a un qui a une langue extrêmement longue et qui nous agrippe et qui nous tire.
Ouais.
Là, il faut absolument que les potes viennent nous défendre. Il y a le zombie qui te crache du vomi à la gueule et qui un vomi qui attire les hordes de zombies. Enfin, il y a beaucoup de trucs différents.
Super.
Alors ça, c'est déjà, c'est un jeu qui est, rien que pour l'aspect coopératif, qui est vraiment, vraiment très très renforcé, c'est un jeu à jouer.
Mais voilà. Est-ce qu'il y a une campagne ? Il y a une campagne.
C'est ça la campagne.
Ça, il y a une campagne. C'est ça, avec la campagne. Niveaux,
alors soit on y joue en solo, alors il y a aucun intérêt
ouais.
ou presque.
Ouais, c'est multi avant
on
tout,
y joue
ouais.
en ligne avec 2-3 amis ou pas, qui deviennent des amis effectivement dans le jeu.
Alors bah, ça, c'est sûr que quand on a survécu à une horde de zombies, ça,
voilà.
ça crée des
non,
liens.
Non, mais c'est très très bien fait. Même la démo, je la conseille à tout le monde parce qu'on comprend ce qu'est le jeu, enfin une partie du jeu, puisque il y a aussi un système d'IA qui est bien fait, c'est-à-dire que il y a on a peu de munitions, on a peu d'armes qui évoluent peu, mais tout est basé en fait sur le coopératif. Bon, je vais faire vite.
Et
l'autre point en fait, donc ça effectivement, ça dure 8 heures, la campagne n'est pas si longue que ça, mais on la rejoue assez facilement. Mais le gros avantage, c'est le multijoueur. Donc Left 4 Dead en fait, c'est plus Left 8 Dead parce qu'on c'est plus à 8, on est 4 contre 4. Et en fait, donc il y a toujours les 4 joueurs humains qui sont toujours en coopératif extrême, qui avancent vraiment ensemble et qui s'aident mutuellement, qui se soignent mutuellement, qui se protègent mutuellement, etc. Et il y a la horde de zombies qui est contrôlée par l'ordinateur, plus 4 super zombies qui sont contrôlés par les joueurs. Et donc, et ça, c'est la guerre permanente à la Counter-Strike ou Team Fortress. Donc
mais là aussi, ça, les humains doivent aller d'un point A à un point B.
C'est toujours la même chose.
D'accord.
Sauf que
les super zombies pour cette fois-là sont contrôlés.
Mais effectivement, c'est un jeu qui, ses rares défauts, effectivement, il est basé sur le moteur Source qui est un peu vieux. Donc, comme ils ont pris le parti du photoréalisme.
Moi, j'avoue que j'ai pas encore joué, mais ce que j'ai vu en vidéo, en tout cas, m'a pas semblé honteux.
C'est pas moche, pas honteux. C'est loin d'être honteux, mais on n'est pas du tout au niveau des super productions Gears of Warienne
etc. Quoi. Mais c'est peut-être pas l'intérêt.
C'est pas l'intérêt, voilà. Mais moi, effectivement, je m'attendais à un FPS sympa et j'ai vraiment été surpris par le côté coop, mais poussé à l'extrême et très 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 bien implémenté. C'est-à-dire que vraiment, on sauve toujours. Enfin, on est obligé. Très vite, en fait, on se retrouve comme dans les films de zombies.
La solidarité avant tout.
Ouais. Et ça, c'est très très bien fait.
Left 4 Dead sur Steam, principalement, c'est aussi sorti sur 360. Mais bon, voilà.
Alors, j'ai un peu joué sur 360. Pour le coup, normalement, je suis pas. Même si je suis plus joueur PC de base, là, effectivement, je trouve que sur console, c'est un peu moins pratique que sur PC quand même.
Ouais, faut être rapide. Il faut.
Pour aller sauver notamment ses amis.
Left 4 Dead de Valve, la meilleure surprise de l'année, selon Clément Appap, c'est dire. Voilà, on en a fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Je suis allé au cinéma, j'ai vu Quantum of Solace et je rejoindrai mon ami Patrick sur le fait que c'est un film d'action plutôt qu'un vrai James Bond. Et j'ai vu aussi le Mérine, le premier épisode, que j'ai beaucoup apprécié.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Oh, c'est rapide.
Je cautionne aussi pour Mérine. Ouais. Très, très bien.
Patrick.
Alors, moi, je sais pas si vous vous rappelez, une des premières news que j'avais fait pour l'émission, ça nous rajeunit pas, c'était l'annonce que Capcom faisait un film en image de synthèse sur Resident Evil. Ça s'appelle Resident Evil Dégénération. Et j'ai vu le film en avant-première. Le point fort quand même, ouais, les attentes, parce que c'est quand même
Point fort, il y a des morts vivants.
Et c'est quand même un film qui est produit par monsieur Kobayashi. C'est quand même le producteur des jeux Resident Evil 4 et Devil May Cry 4. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc j'en attendais pas mal. On revient pas sur les films live avec les acteurs, donc les trois films qui sont
des références du genre
dans les cercles initiés série Z. Et donc le film en image de synthèse, c'est pas encore le bon, hein, c'est pas encore ça.
C'est pas
gagné. Non, c'est assez dommage parce qu'en fait le début est pas mal. Les 20 premières minutes sont vraiment bien faites. Je vais pas vous raconter l'histoire, je vais pas faire de spoil, mais bon, le début est bien et après une grosse perte de rythme et au niveau de la réalisation, je m'attendais à mieux parce que c'est vrai qu'on est plus sur une qualité de cinématique de jeu que on n'est pas encore sur ce qu'on avait vu sur le Final Fantasy. Je sais pas si vous vous rappelez le film de Square qui était magnifique. On est en dessous et même au niveau du film, du scénario, c'est un peu c'est un peu mou, passé la moitié.
Ça sort quand?
Alors ça sort en Blu-ray et en DVD en février 2009.
D'accord.
Donc voilà, c'est vraiment
et vous pouvez vous en passer, voilà.
Voilà, c'est juste pour les fans, mais bon voilà, ça n'apporte pas grand-chose à la mythologie malheureusement.
Donc moi je vais juste faire je vais pas raconter pas de nouveautés cette semaine, mais juste pour signaler Walking Dead tome 6. Donc j'arrête pas d'en parler, mais c'est quand même la série ultime de zombies en BD.
Tu me passes le 5 d'ailleurs.
Ouais, je te passe le 5 et je te passerai le 6. Civil War, donc les super-héros Marvel qui se déchirent entre Captain America d'un côté et Iron Man de l'autre, le tome 3 est sorti. Et on retrouve aussi Fear Agent dont le tome 3 est sorti, je crois que j'en avais parlé ici. Et juste pour une nouveauté, c'est pas du tout une nouveauté, ça date un petit peu, mais je l'ai découvert, c'est Criminal, scénarisé par Ed Brubaker, donc un des grands scénaristes des comics en ce moment. Donc Criminal tome 1 et tome 2, et c'est de la pure histoire de gangster, c'est très très noir et c'est très très bien. Et bien voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'IB Labo.
Labo.
Even on a budget,
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.